Castanet, la bouse d'El Julius.
Samlo 11 de avril 2014, sommes à l'Opéra del Capitol.
Est-ce que certains d'entre vous sont déjà venus ici, au théâtre du Capitole? C'est la première fois pour tout le monde? C'est la première fois, donc ça veut dire qu'on va découvrir ça ensemble, ça c'est plutôt chouette. Tout à l'heure, quand on va aller dans la salle, quand on va découvrir la salle ensemble, vous allez certainement avoir une impression de grandeur, qu'il s'agit d'une très grande salle avec une très grande scène, d'accord? Et puis quand on va la regarder d'un peu plus près ensemble, on va se rendre compte que finalement, la scène, eh bien peut-être manque un peu d'espace. Et ça va peut-être nous poser quelques problèmes si jamais on veut installer des grands décors. Et on va comprendre ensemble comment on arrive tout de même à installer des grands décors et faire des grands changements de décors sur cette scène qui finalement n'est pas très très grande. Alors ce théâtre, il a différentes particularités. Déjà la première, c'est qu'on s'appelle théâtre. Est-ce que l'on va donner des pièces de théâtre ici, à votre avis?
Non.
Non, vous avez raison. Quel genre de spectacle on va donner ici? Oui?
Visiter.
Alors on peut visiter, mais si on visite cet endroit, c'est que il est intéressant et qu'on y donne des spectacles, qu'on y fait quelque chose. Alors quel genre de spectacle on va donner ici? Ici on va raconter des histoires. On va raconter des histoires, mais de différentes manières. On va les raconter comment?
Des histoires en musique.
Oui, des histoires en musique. Alors soit on peut les raconter en chantant. Comment on va appeler ce genre de spectacle quand on raconte une histoire en chantant? Un opéra, absolument. Nous, on va donner des opéras ici. Et puis, parfois, on choisit de raconter les histoires en dansant. Comment on va raconter les histoires en dansant? Comment ça s'appelle, un spectacle de danse? Oui?
Un
théâtre?
Un théâtre, non?
Non.
Un orchestre?
On appelle ça un ballet. Alors, attention, hein, ça ne s'écrit pas de la même manière que le ballet qui sert à ramasser les miettes, on est d'accord, hein? Là, le ballet, hein, le ballet de danse, c'est B-A-2-L-E-T. Donc ça, c'est notre spécialité vraiment ici. C'est l'opéra, le chant, et puis la danse avec les ballets. On va essayer de décortiquer un petit peu l'opéra, le genre opéra. Hein. De quoi a-t-on besoin pour faire un spectacle? Déjà, si c'est un spectacle qui est chanté, de quel genre d'artiste va-t-on avoir besoin? De chanteurs, bien évidemment, on va avoir besoin de chanteurs. Sauf que ces chanteurs... ils ne vont pas être seuls, ils vont être accompagnés en effet par de la musique qui va être interprétée par qui?
Des musiciens.
Par des musiciens. Et comment on appelle l'ensemble des musiciens?
Un orchestre.
Donc on va avoir des chanteurs et un orchestre. Et puis pour que les spectateurs comprennent bien où se passe l'histoire, qu'est-ce qu'on peut avoir sur scène?
Un décor.
Un décor. De quoi va-t-on avoir besoin d'autre encore? Les artistes. Est-ce qu'ils vont arriver habillés comme nous, comme tous les jours? Qu'est-ce qu'ils vont porter? Des costumes, très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent être amenés à porter aussi?
Des chapeaux.
Des chapeaux ou des...
perruques.
Des perruques, oui. Et puis ils vont être aussi...
maquillés.
Ils peuvent être aussi maquillés. Donc on a des chanteurs, on a un orchestre, on a des décors, des costumes. Ça ne suffit pas encore, ça, pour faire un spectacle complet. Qu'est-ce qu'il nous faut?
Une salle.
Il nous faut une salle, c'est vrai. On l'a. On a la salle du Théâtre du Capitole. On a besoin de quelque chose aussi qui va nous permettre de, déjà tout simplement de voir ce qu'il y a sur la scène, mais ça peut aussi changer une ambiance, ça peut permettre aux spectateurs de comprendre, par exemple, à quelle heure se passe l'histoire.
Les projecteurs.
Les projecteurs, ça fait quoi les projecteurs?
La lumière.
Ça fait de la lumière. Et la lumière au spectacle, c'est aussi important que les décors. Hein. Et puis dans un spectacle, dans un opéra, il nous faut aussi une mise en scène. Qu'est-ce que c'est que la mise en scène? Oui.
Des entraînements.
Alors, ce n'est pas vraiment les entraînements. La mise en scène, c'est la manière dont les artistes vont interpréter leurs personnages. Hein, les chanteurs, ils vont chanter. Mais il ne faut pas oublier que les chanteurs, ils nous racontent une histoire. Donc, on va leur dire, ben voilà, là, il faut que le rôle que tu interprètes, c'est le rôle d'une personne qui est assez méchante. Hein, donc, il faut qu'on comprenne sur ton visage, par exemple, que tu as des intentions un peu malveillantes. Ou au contraire, si une chanteuse doit interpréter le rôle d'une jeune fille amoureuse de son amoureux, il faut qu'on le voit aussi dans son interprétation, etc. Hein, et la manière dont ils vont se déplacer, tout ça, ça va être la mise en scène, d'accord? Et dans un ballet, de quel genre d'artiste on a besoin dans un ballet?
D'une danseuse.
Une seule? Une seule danseuse?
Plusieurs.
On peut avoir qu'une danseuse.
Oui.
Mais souvent, on va avoir des danseurs solistes et puis on va avoir ce qu'on appelle un corps de ballet. Un corps de ballet, c'est l'ensemble des danseurs qui vont danser autour des solistes.
Chias, Cars, Uditus, Sespla, à l'écoute des radios Occitanie, 98.13.
Deuil, recevam in investat, comment vous appelez-vous?
Alors, je m'appelle Catherine Alcovero.
On peut vous tutoyer ou vous vous voyez?
Me tutoyer, avec plaisir.
Quel métier faites-vous?
Je suis artiste lyrique. Je suis choriste, je chante dans les chœurs du Tas du Capitole.
Quand avez-vous voulu devenir chanteur d'opéra?
Alors, j'ai voulu devenir chanteuse d'opéra quand j'étais petite, à l'âge de 11 ans, parce que j'ai fait partie d'une maîtrise, c'est-à-dire un chœur d'enfants, à Marseille.
Depuis quand faites-vous ce métier?
Alors, je fais ce métier depuis l'âge de 24 ans.
Comment devient-on chanteur d'opéra?
Alors, on devient chanteur d'opéra donc en faisant le conservatoire. Le conservatoire, c'est une école comme l'école quand vous apprenez à lire ou à écrire, mais simplement on vous apprend à chanter et on vous apprend aussi le solfège, la musique. Parce que pour chanter, il faut connaître la musique ainsi que les langues. Et donc j'ai fait le conservatoire à Marseille et après une école qui se trouve aussi à Marseille, qui est une école de préparation pour devenir chanteur d'opéra.
D'accord. Alors maintenant je voudrais qu'on regarde un peu la salle où on se trouve. Ce théâtre, il a été construit en 1736. Vous y étiez? Non.
Oui.
Non, moi non plus. Hein, on n'était pas là. Hein, 1736. Donc c'était ce théâtre, il est donc très ancien. Est-ce que vous avez l'impression que le décor qu'il y a autour de nous, la décoration du hall d'accueil, là, date de cette époque-là?
Non.
Non, hein, pas du tout. Donc ce théâtre, il a été très très régulièrement rénové. Il y a même une fois dans l'histoire de ce théâtre, on a été obligé de le reconstruire entièrement. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Oui.
Il y a eu la guerre et ça l'a détruit.
Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est passé au moment de la Première Guerre mondiale, en 1917. Mais ce n'est pas une conséquence de la guerre. Si tu veux, le théâtre n'a pas été attaqué, il n'a pas été bombardé. C'est un peu un hasard que ça se soit passé cette année-là. Oui?
Un incendie.
Un incendie, absolument. Tu voulais le dire aussi. Mais c'est vrai que le feu... On a l'habitude de dire que c'est la maladie des théâtres. Pourquoi? Parce que dans un théâtre, vous avez énormément de bois. Vous avez du bois au niveau des décors, vous avez du bois au niveau des planchers, des fauteuils, il y a beaucoup de tissus, et tout ça peut malheureusement s'enflammer assez rapidement. Hein. Donc le feu, c'est ce qu'on redoute, c'est vrai, beaucoup dans les théâtres. Donc là, l'incendie s'est passé en 1917, le 10 août 1917. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur du théâtre, donc personne n'a été blessé ou brûlé. Mais le théâtre a été entièrement détruit. Donc, on l'a reconstruit, et puis régulièrement, on a refait le décor de ce théâtre. Et là, cette dernière décoration, elle date de 1996. Et on a voulu faire quelque chose qui soit le plus intemporel possible.
Quel timbre de voix avez-vous ?
Alors moi, je suis mezzo-soprano. Alors mezzo-soprano, je pense que mezzo, vous devez comprendre, ça veut dire milieu. Et soprano, ça veut dire en principe la voix la plus aiguë des femmes. Donc moi, je suis au milieu. Je suis mezzo-soprano. Il existe donc chez les femmes trois types de voix. Le soprano qui est la voix la plus aiguë. Le mezzo-soprano qui est au milieu. Et la voix la plus grave qui s'appelle soit alto ou contralto.
Pourquoi préférez-vous chanter dans le chœur?
Pourquoi je préfère chanter dans le chœur? Parce que déjà, je n'ai pas la voix pour être une soliste. C'est-à-dire que soliste, c'est un autre métier. Et j'ai toujours aimé chanter avec les autres, c'est-à-dire à plusieurs voix, en polyphonie. C'est-à-dire que dans le chœur, on chante avec les sopranos, mais aussi les hommes, qui sont les ténors et les basses. Donc on chante souvent à quatre voix et je préfère chanter en polyphonie.
Êtes-vous en costume quand vous chantez?
Alors, lorsque l'on fait des opéras, je suis toujours en costume. Alors ça dépend les époques, on est le choix du metteur en scène. Donc on est tout le temps en costume quand on chante un opéra. Par contre, lorsque l'on fait des concerts de chœur, on est tous habillés pareil avec une robe noire et voilà.
Quel était votre dernier rôle?
Alors actuellement, le dernier rôle, c'est dans Due Foscari, c'est un opéra de Verdi. Et on fait des demoiselles dans le chœur. C'est-à-dire qu'on accompagne la soliste, nous sommes ces dames de compagnie.
Et quel était votre premier rôle?
Alors, ça remonte à longtemps. Mon premier rôle, alors, ça a été dans une pièce toujours de Verdi, qui est Falstaff. Et je faisais un personnage du peuple et une fée.
Qui a inventé l'opéra ?
Qui a inventé l'opéra ? C'est à l'époque d'un compositeur italien qui s'appelle Monteverdi. Donc Monteverdi a choisi de mettre des thèmes de livret. Le livret, c'est une histoire où le texte ne serait plus lu, mais chanté. Donc il a créé l'opéra Monteverdi. C'était il y a très longtemps, c'est à peu près l'époque de la Renaissance.
Alors, on va monter, les enfants. Vous entendez peut-être qu'il y a un petit peu il y a des choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes, c'est le grand foyer. C'est une salle qui est destinée au public, là où le public peut aller au moment des entractes. Vous savez, les entractes, hein, ce sont les pauses pendant les spectacles. Et cet après-midi, on a une rencontre entre une comédienne qui va lire des textes qui ont un rapport avec le ballet que l'on donne en ce moment, qui s'appelle Pacrus. Et elle va être accompagnée par une pianiste qui est également bassoniste. Peut-être que vous avez entendu le son d'un orchestre tout à l'heure. Alors, les foyers dans un théâtre, ils ont une autre utilité, c'est qu'ils vont servir de caissons d'insonorisation. Ça aussi, c'est encore un peu compliqué. Caissons d'insonorisation, ça veut dire que ces salles, le foyer ici, le foyer bar, vont empêcher le bruit de l'extérieur de pénétrer dans la salle. Parce que dans la salle de spectacle, on va avoir le son des voix, le son des instruments. Et puis à l'extérieur, on a le bruit des voitures, on a le bruit des travaux, etc. Est-ce que vous pensez que ça serait agréable d'entendre le bruit des voitures quand on écoute la chanteuse ? Non. Donc quand on est dans la salle, il faut vraiment qu'on soit coupé du monde extérieur, qu'on n'entende plus du tout le bruit de l'extérieur.
D'accord ?
Qu'on soit, voilà, qu'on ait le silence de la meilleure qualité possible pour vraiment juste entendre le son des voix et le son des instruments. Vous avez entendu quand on était dans le hall d'accueil, ça résonnait, il y avait de l'écho, hein, d'accord ? Donc on peut dire qu'il y avait une mauvaise acoustique. L'acoustique, c'est la manière dont on perçoit le son. Est-ce que vous pensez que dans la salle, ça va résonner de la même manière ? Il va y avoir de l'écho ? On ne sait pas, peut-être. On va aller vérifier tout ça. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit dans le silence total, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la salle, donc ils vont se parler, ils vont peut-être utiliser des outils, etc. Donc il y aura peut-être un peu de bruit, hein. Mais on va essayer d'écouter justement l'acoustique de la salle. Est-ce que ça résonne ? Est-ce qu'il y a de l'écho ? Et on se posera la question. Est-ce que du coup, en fonction de l'acoustique, est-ce que les chanteurs d'opéra ont besoin de micros pour qu'on les entende bien ? On verra. On ne sait pas, peut-être. Pour le moment, on pourrait penser que oui. Peut-être que non. On verra quand on sera dans la salle. On va monter.
Pouvez-vous nous donner le titre de votre chanson préférée ?
Alors, moi, je ne sais pas si vous connaissez cet opéra, mais ça s'appelle Carmen. C'est un opéra de Bizet. Et moi, je chante le rôle de Carmen.
Pouvez-vous nous la chanter ?
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vin qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Et rien n'y fait, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais
si je t'aime, pas encore de toi.
Quel est votre compositeur préféré ?
Alors, moi, j'ai deux compositeurs préférés. Alors, je dirais qu'il y a d'abord Verdi. J'adore Verdi, mais aussi un compositeur français, mais qui n'est pas vraiment spécialisé dans l'opéra, qui s'appelle Gabriel Fauré, et qui est né à Pamiers. Parce que quand j'ai commencé le chant, je faisais partie d'une chorale d'enfants, et elle s'appelait Maîtrise Gabriel Fauré. Voilà.
Pourrez-vous nous chanter une de ces chansons ?
Votre âme est un paysage choisi, que vos charmants masques et bergamasques jouent du luth et dansant et quasi triste sous leur déguisement fantasque, tout en chantant sur le mode mineur l'amour vainqueur et la vie opportune,
etc. Là, c'est pas vraiment super parce que Gabriel Fauré, c'est pas comme Bizet où on peut chanter a cappella. Il faut le a cappella. Vous savez ce que ça veut dire? Ah, alors a cappella, ça veut dire sans accompagnement. Là, quand il faut chanter du Fauré, ça se chante plutôt accompagné du piano, donc plus difficile.
Alors, chose un peu particulière dans cet opéra, c'est que dans le décor, il y a aussi de la vidéo. Et vous voyez là qu'il y a un écran vidéo avec une vidéo qui est projetée. Et donc avec du son aussi. Donc ça, c'est vrai que ça fait entièrement partie du spectacle. Et là, en ce moment, les techniciens sont en train de régler, à la fois pour que l'image aille bien sur l'écran, et ils travaillent aussi sur la qualité du son. Hein, d'accord ? Donc c'est ce qu'ils sont en train de régler. Peut-être qu'on peut décrire déjà le décor que vous voyez.
Bah, par exemple, ça fait penser à une maison avec,
oui.
avec un jardin pour les balançoires.
C'est un peu difficile de vraiment voir ce décor, puisque comme on est en train de régler la vidéo, on est en train de régler la lumière, tout le décor n'est pas éclairé, il est assez sombre, donc vous ne voyez pas forcément entièrement de quoi il est constitué. Mais tu as remarqué qu'il y avait une espèce de cuisine, on voit également des balançoires, derrière il y a même un toboggan, il y a une petite chambre. Voilà, déjà ce décor, il a une forme particulière, c'est qu'il est rond. Il est posé sur ce qu'on appelle une tournette. Une tournette, c'est un peu comme si vous aviez la base d'un manège. Vous avez une grande roue en métal, d'accord, par-dessus laquelle on a posé du plancher et par-dessus, on a posé le décor. Et toute cette grande roue, vous la voyez ? Cette grande roue, elle va pouvoir tourner. Donc ça va permettre de faire un changement de décor. Alors, comment ça se passe ? Ben, il y a un circuit électrique dans cette grande roue et cette tournette va pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre. Vous la voyez tourner. Qu'est-ce que vous remarquez ? Peut-être que vous arrivez déjà à voir quelques couleurs de la structure. On voit du jaune, on voit du bleu, on voit du rouge. Ah ! Alors là, ils font... Parce que la lumière vient de s'allumer et qu'ils découvrent le décor entièrement. Alors, la tournette, elle permet d'avoir plein de décors différents au même endroit. Donc on va avoir à la fois le décor d'une maison, à la fois le décor d'un jardin, le décor d'une salle de conférence de presse, etc. Hein? Parce que dans cet opéra, il y a aussi des moments où il y a plusieurs choses qui vont se passer au même moment. C'est-à-dire qu'on va voir des chanteurs chez eux, par exemple, dans une pièce, et puis on va voir en même temps que derrière, il se passe quelque chose ailleurs. Hein? Et peut-être que la structure en métal de ce décor, elle vous fait penser un peu à une aire de jeu. Hein ? On voit des balançoires, on voit un toboggan, on voit des un peu comme ce que vous pourriez trouver dans un square, hein, avec, vous savez, ces espèces de structures là où je suis sûre que vous allez vous amuser encore. Parce que là, la metteur en scène a voulu passer un message, en quelque sorte, en disant que finalement, la vie était un peu un jeu. Hein, que même adultes, on continuait un peu de jouer la comédie. Donc ça, vous vous souvenez, les enfants, tout à l'heure, je vous ai dit que sur la scène, on manquait un petit peu d'espace. Donc ça, c'est une solution, la tournette, pour pouvoir changer les décors. Si je veux changer davantage les décors, où est-ce que je peux placer les éléments de décor en attente ? Si je n'ai pas de place sur les côtés, où est-ce que je peux les mettre ? Exactement, en haut, au-dessus de la scène, dans ce qu'on appelle la cage de scène. Hein ? La cage de scène, c'est tout l'espace que vous avez au-dessus de la scène, d'accord ? Pour vous donner une petite idée, la cage de scène, elle est haute de 20 mètres. Et le cadre de scène, vous voyez le cadre de scène ? Le cadre de scène, c'est le cadre doré. Hein ? C'est un peu par cette ouverture que les spectateurs peuvent voir ce qu'il y a sur scène. Le cadre de scène, il fait 8,60 m de haut. Ça vous semble haut déjà, non ? Donc ça veut dire que la cage de scène, l'espace qu'il y a au-dessus de la scène, est plus haut que la salle, là où on se trouve. Donc on va pouvoir en effet suspendre des éléments de décor au-dessus de la scène et les faire descendre ou remonter suivant les changements que l'on souhaite. Alors là, dans ce spectacle-là, tout le décor est posé sur la scène, posé sur la tournette. Hein, on n'a rien qui est suspendu au-dessus. Qu'est-ce qu'on a quand même qui est suspendu au-dessus ? On a dit que c'était très utile, très important dans un spectacle. La lumière, voilà. On a des grandes perches sur lesquelles on a installé des projecteurs. Et on a en effet des projecteurs suspendus au-dessus de la scène. Hein. Alors, au milieu de la salle, là, il y a deux fils électriques qui tombent de la coupole. Et au bout de ces deux fils électriques, il y a deux petits micros qui sont là pour capter le son de la salle et de la scène. Et pour le rediffuser, non pas dans la salle, mais ça va rediffuser le son dans les loges des artistes, dans les bureaux de la technique. Comme ça, lorsque les artistes, par exemple, sont dans leur loge en train de se préparer, eh bien, ils entendent ce qui se passe sur scène. Et ils ont un petit écran de contrôle aussi qui leur permet de voir également ce qui se passe sur le plateau, même s'ils ne sont pas dans la salle.
Comment ça se passe dans les coulisses avant un spectacle ?
On est comme dans une ruche, comme chez les abeilles, tout le monde est à son poste. Il y a les techniciens qui mettent le dernier point d'honneur à placer exactement le décor. Et nous, on est maquillés, perruqués. On est un peu excités parce que c'est quand même un plaisir de monter sur scène et d'être écouté et d'être applaudi par de nombreux spectateurs, auditeurs. Donc ça fait comme dans une ruche, tout le monde est à son poste, un peu excité avant de monter sur la scène.
On va faire un petit test maintenant, les enfants. Je vais me taire. Vous allez vous aussi faire aucun bruit et on va écouter. Pour vérifier si ce que je vous ai dit tout à l'heure est vrai. Est-ce qu'on entend encore les bruits de l'extérieur ? Est-ce qu'on entend les bruits des voitures, des travaux ? Et puis, aussi, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur, quand les techniciens parlent, etc. Vous allez me dire si vous les entendez bien, si vous trouvez ça normal, étrange, est-ce que ça résonne, etc. D'accord ? Donc, on prend quelques secondes pour écouter. Est-ce qu'on entend les bruits de la ville ?
Non.
Non. Est-ce que vous entendez les techniciens parler ?
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils crient, qu'ils hurlent pour qu'on les entende ?
Non.
Alors, il y a à un moment donné, quelqu'un a parlé fort parce qu'en fait, la personne qui a dû parler un peu plus fort, c'est une personne qui se trouve au niveau de la régie lumière qui est deux étages juste en dessous. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la salle, partie publique, et qui s'adresse à des techniciens qui sont sur la scène. Est-ce que les gens qui sont sur la scène ont eu besoin de parler très très fort ? Et pourtant, est-ce qu'on les a bien entendus? Est-ce que vous avez entendu un écho? Est-ce que vous trouvez que le son résonne?
Un petit peu.
Pas vraiment quand même, hein. Le son ne résonne pas, le son est assez net, assez précis. Est-ce que du coup, vous pensez que les chanteurs d'opéra ont besoin de micros pour qu'on les entende bien?
Non, pas du tout.
Ils n'ont pas besoin de micros parce qu'ils sont aidés, alors avant toute chose, par leur technique vocale. Hein, c'est la manière dont ils chantent, ils ont appris à avoir de la puissance, ils ont appris à projeter leur voix, d'accord? Mais c'est aussi grâce à l'acoustique de la salle. Vous vous souvenez, l'acoustique, c'est la manière dont on perçoit les sons. Ici, on est dans un théâtre qui a une forme bien particulière. Est-ce que vous savez comment on appelle cette forme de théâtre? Un théâtre à l'italienne. Les théâtres à l'italienne, ils ont une forme, vous savez, la forme de l'objet qu'on met sous les sabots des chevaux. Comment on appelle cet objet?
Un fer à cheval.
Donc les théâtres à l'italienne, qui ont cette forme comme ça en U, hein, en fer à cheval, eh bien, cette architecture va permettre au son d'être diffusé et d'être naturellement amplifié vers le public. Donc le son va être porté. C'est pour ça qu'on a une très bonne acoustique. Ici, que ça ne résonne pas, qu'il n'y a pas d'écho, mais le son est naturellement amplifié vers le public. Donc on a un son très net et très précis. Hein? D'accord?
Comment se faire entendre sans micro?
Alors, se faire entendre sans micro, c'est ça le but de tout notre travail, c'est travailler le corps, la musculature, parce que quand on joue d'un instrument, on touche un instrument, il est amplifié. Quand on est chanteur, c'est uniquement en prenant conscience que nous avons notre corps et il faut travailler son air, sa position, et on ne fonctionne que par sensation. Et donc, c'est avec un entraînement, c'est comme un sportif. Il faut travailler tous les jours pour être au top niveau. Donc c'est comme ça qu'on arrive à chanter sans micro.
Alors, est-ce que l'orchestre est sur la scène? Est-ce que vous savez dans quel, comment on appelle l'endroit où est placé l'orchestre? On l'appelle la fosse d'orchestre. Et pourquoi l'orchestre n'est pas sur la scène d'ailleurs? Ce serait plus simple quand même, non? On risque de manquer de place, en effet, pour la mise en scène, pour les décors. Et puis pour autre chose, c'est que si on mettait l'orchestre à la même hauteur que les chanteurs, on entendrait uniquement l'orchestre, on n'entendrait plus les chanteurs. Là, l'orchestre est devant, mais en contrebas. Du coup, la voix des chanteurs peut passer par-dessus. Et on va avoir cet équilibre entre la puissance des chanteurs et la puissance de l'orchestre. On s'approchera de la fosse tout à l'heure pour que vous puissiez mieux voir l'orchestre.
Connaissez-vous la flûte enchantée?
Ah oui, je connais très bien la flûte enchantée de Mozart.
Sauriez-vous nous la chanter?
Alors, le problème, c'est que moi, je n'ai pas du tout la voix pour chanter la flûte enchantée. Alors, je pense que vous pensez à la Reine de la Nuit. C'est ça que vous...
Oui.
Alors, moi, ben, le problème, c'est que je n'ai pas du tout la voix pour chanter la Reine de la Nuit. C'est une voix qui s'appelle soprano coloratur. C'est une voix très, très aiguë, avec énormément de notes à chanter. Ça, je ne sais pas le faire.
On va redescendre, on va aller s'installer en bas. Là, on le voit, on est plus bas que le déco.
Là-dessous, c'est l'orchestre.
Voilà, c'est l'orchestre. Donc, vous allez avoir une partie de l'orchestre qui va être un peu à l'air libre, si vous voulez. Et puis, dans le fond, on a la partie de l'orchestre où on a les instruments qui jouent le plus fort. Les percussions, les cuivres, hein, les trompettes, etc. Et eux, ils vont se retrouver un peu sous la scène. Mais on les entendra quand même parfaitement bien, parce que justement, ils sont suffisamment puissants. Quel genre d'instrument on a dans un orchestre? Oui.
Trompette, saxophone?
Alors oui, ça c'est plutôt au niveau des cuivres, même si le saxophone c'est un peu plus rare, mais on peut en avoir. Oui?
Une harpe?
On peut avoir des harpes. Qu'est-ce qu'on a, l'instrument le plus nombreux dans un orchestre?
Piano.
Alors,
le violon.
On peut avoir un piano dans un orchestre, mais c'est assez rare, on va dire. On aura surtout violon. Ce que tu as dit, des violons. Des violons, puis quoi encore?
Des contrebasses.
Des contrebasses.
Des guitares.
Pas dans un orchestre, non, on n'aura pas de guitare dans un orchestre.
Des violons.
Alors, on l'a dit, des violoncelles aussi.
Des flûtes.
Des flûtes. Des altos, vous savez ce que c'est qu'un alto? Un alto, c'est un violon qui est un peu plus gros et qui a donc un son un peu plus grave. Donc on a violon, alto, violoncelle, contrebasse et harpe.
Et basse.
Après, qu'est-ce qu'on a derrière? On va avoir les instruments avant. Les flûtes, flûtes traversières, piccolo. Encore derrière, toujours les instruments avant, mais plus... plus trompette, cor, saxophone peut-être, tuba. Et puis la dernière famille d'instruments, les percussions. On aura aussi des clarinettes dans un orchestre, en effet. D'accord. Donc un orchestre, on va l'organiser en fonction de la puissance sonore des instruments. Si on met les percussions devant les violons, eh bien on risque de ne plus trop entendre les violons, ou moins bien. D'accord. Alors, il y a un autre métier de la technique qui est assez rigolo. C'est le métier d'accessoiriste. Les accessoiristes, ils vont s'occuper de quoi, à votre avis?
L'accessoire.
Des accessoires. C'est quoi les accessoires dans un spectacle?
C'est la décoration.
Alors, ça fait partie du décor. C'est un peu tous les objets du spectacle. Là, si on essaye de décrire un peu les objets que l'on a sur scène. Alors, tout à l'heure, vous voyez, on avait une table. On a une table avec une nappe. On a une télé. On voit un banc. On voit des petits lampadaires sur un mur. On voit des fauteuils. On voit des fauteuils de voiture là-haut. Hein. Tout ça, ce sont des accessoires. D'accord? Mais les accessoiristes, ils ont un autre rôle aussi. C'est qu'ils vont s'occuper des effets spéciaux. Qu'est-ce que ça peut être un effet spécial dans un spectacle? Oui? Toi, t'en as un?
Oui. Bah, par exemple, quand quelqu'un lui tire dessus... Eh ben,
absolument.
Ben, on va pas vraiment lui tirer dessus.
Tu crois?
Un peu.
Non.
En effet, si on veut tirer un coup de feu, si on veut, par exemple, et du coup, si on veut qu'il y ait un peu de sang, vous savez, qui coule, est-ce que ça va être du vrai sang?
Non.
C'est du ketchup.
Alors non, c'est pas du ketchup non plus.
C'est un
produit qui va imiter la couleur du sang,
de
d'accord, mais c'est ni de la confiture de fraises, ni du ketchup, c'est
comment,
encore autre chose. Alors, comment il pourrait faire? On peut imaginer une petite poche qui se perce, hein, et on voit le sang apparaître.
D'accord.
Là, la personne qu'on entend, c'est l'éclairagiste. L'éclairagiste qui est au niveau de la régie lumière, qui s'est installée au niveau du balcon. Parce que c'est de là qu'on a le meilleur angle de vue sur la scène. Et l'éclairagiste donne ses indications aux électriciens éclairagistes qui sont là pour réaliser ce que souhaite l'éclairagiste. Donc ils vont positionner les projecteurs en fonction de ce que souhaite l'éclairagiste. On en revient à nos effets spéciaux. Si je veux qu'il pleuve sur scène, parce que ça c'est un effet spécial. La fumée, le vent, la neige, la pluie, tout ça ce sont des effets spéciaux. Est-ce que je peux faire tomber de l'eau sur scène à votre avis?
Oui, non.
Alors ça dépend. Si je peux mouiller le décor et si je peux récupérer l'eau, je peux faire tomber de l'eau sur scène pour imiter la pluie. Comment on va faire? On va prendre un petit tuyau avec des petites ouvertures et on aura comme ça une averse de pluie. Hein? Si je ne peux pas mouiller les décors, si je ne peux pas récupérer l'eau, qu'est-ce que je peux faire tomber sur scène qui va imiter la pluie, qui va imiter à la fois visuellement, mais aussi qui va aussi imiter le son de la pluie? Oui?
Des projecteurs qui...
Alors, on pourrait travailler avec la lumière. On va forcément travailler avec la lumière, mais c'est pas. Ça va éclairer quelque chose, mais on va faire tomber quelque chose sur scène. Oui.
Des graines, on les colorait.
Alors, on pourrait dire que c'est des sortes de graines, mais c'est en effet quelque chose que vous mangez. Du riz, absolument. On va mettre des grains de riz dans un grand filet au-dessus de la scène. On va secouer ce filet. Et les grains de riz vont tomber. Alors là, vous allez me dire, oui, enfin bon, on va voir que c'est du riz. Sauf que, non, c'est du riz. Le polystyrène, c'est trop léger, d'accord? Quand le riz va tomber, dites-vous bien qu'à l'opéra, tout est fait pour être vu de loin. Donc, vous allez voir, on va faire tomber des grains de riz souvent en fond de scène. Hein. Et si dans l'histoire, on vous dit qu'il fait froid, qu'il pleut, vous voyez que quelqu'un ouvre le rideau dans le décor d'une fenêtre et qu'on voit une averse de pluie derrière, bah, vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est des paillettes, du riz, de l'eau. Vous voyez une averse de pluie, c'est tout. Hein, d'accord. Donc voilà, ça c'est un des effets spéciaux que peuvent réaliser les accessoiristes. Et en effet, si on a besoin de faire du feu sur scène, ce sont également des accessoiristes qui vont devoir s'en charger de la fumée, une tempête, du vent.
Comment ils font le feu?
Avec du vrai feu. On utilise un gel. On utilise un gel qui va s'enflammer. Donc, on va le poser, ce gel, à l'endroit où on veut que ça brûle. Et les accessoiristes savent pendant combien de temps ça va brûler, qu'est-ce qui va brûler, quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. Bien évidemment, quand on fait du feu sur scène, d'accord, on a des personnes qui sont dans les coulisses et qui sont prêtes à intervenir si jamais on a une petite flamèche qui va un peu plus loin que prévu. Hein, mais tout est contrôlé, bien sûr.
Avez-vous peur quand vous passez sur la scène ?
Ben oui, on a un tout petit peu peur. Alors ça s'appelle le trac. Alors on a une appréhension parce que on se demande toujours si on est bien préparé, si la voix va suivre. Parce que comme je vous le disais précédemment, c'est pas comme un piano. Un piano, vous tapez sur la touche et vous avez un son. Là, c'est en pratiquant que vous émettez un son. Alors c'est plus compliqué. Donc on a toujours le trac quand on rentre.
Il y a combien de places dans ce théâtre ? Il y a 1156 places. Alors, on est dans un théâtre à l'italienne. Les théâtres à l'italienne, ils sont faits pour qu'on ait une bonne acoustique partout où que l'on soit installé.
Comment on vous regarde quand vous dites que vous êtes une chanteuse d'opéra ?
Eh bien, déjà, on est un peu étonnée parce que je suis assez petite, je suis mince. C'est souvent, quand on pense aux chanteuses d'opéra, on pense à des femmes qui sont très costauds, grandes, un peu comme dans Tintin. Vous connaissez la Castafiore ?
Oui.
Et exactement comme ça. Mais il faut savoir que la Castafiore a existé. C'était une chanteuse d'opéra qui s'appelait Castellani. C'est une professeure de chant qui avait à Pau. Donc voilà, c'est qu'on n'a pas idée qu'une chanteuse d'opéra, ça peut être autre chose que quelqu'un qui est là que pour la voix. Parce que maintenant, quand on est sur scène, il faut aussi jouer la comédie. Il y a une partie d'être, on est actrice aussi, chanteuse et actrice.
On a les machinistes qui s'occupent de la machinerie théâtrale, qui s'occupent des décors. La mise en place des décors, la manipulation et puis le démontage à la fin. Ce ne sont pas eux qui les ont fabriqués. Hein. On a des artisans, ça, aux ateliers de décors qui les fabriquent. Et les machinistes, eux, ils vont les assembler et les manipuler. Ensuite, on a les électriciens éclairagistes qui vont s'occuper de la lumière, qui vont réaliser tout ce que l'éclairagiste, l'artiste, a voulu créer comme lumière dans le spectacle. Ensuite, on a les accessoiristes. Les accessoiristes qui vont s'occuper à la fois des accessoires, de tous les objets du spectacle, mais aussi des effets spéciaux. Ensuite, on a des dizaines d'autres métiers. Hein, on a les régisseurs qui vont s'occuper du bon déroulement du spectacle, hein, de dire aux techniciens à quel moment il faut changer les décors, la lumière, etc. Là, dans ce spectacle-là, on a aussi une équipe qui est très présente, c'est l'équipe du son et de la vidéo, puisqu'on a des effets sonores. On a de la vidéo dans ce spectacle, donc c'est encore une autre équipe qui s'en charge. Et puis après, on a toutes les personnes qui vont s'occuper plus spécifiquement des artistes. On a les habilleurs qui vont aider les artistes à mettre, enlever, changer de costume. On a les coiffeurs, maquilleurs, perruquiers. On a toutes les personnes qui vont s'occuper de la production, donc plutôt au niveau des bureaux. On a toutes les personnes qui vont s'occuper de l'accueil des spectateurs, les ouvreurs, les ouvreuses, les contrôleurs, les personnes de la billetterie, et puis toutes les personnes de l'administration, les comptables, les juristes, les secrétaires. Donc ça fait pas mal de monde, tout ça. Hein. Et on a quasiment 400 personnes qui travaillent au sein du Théâtre du Capitole, en comptant les musiciens de l'orchestre, en comptant les musiciens du chœur, les chanteurs du chœur, et les danseurs du corps de ballet.
Vous avez dit le nombre de musiciens ?
Alors ça dépend des spectacles, ça dépend des œuvres en fait. Nous on a un orchestre de 120 musiciens, hein, c'est l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Mais on n'a pas toujours 120 musiciens qui jouent dans la fosse. Suivant les œuvres, on a parfois des orchestres seulement de 40 musiciens, où on peut aller jusqu'à 120 musiciens. Comme on n'a pas toujours le même nombre de chanteurs, hein. Parfois, on a des spectacles où on n'a besoin que d'un seul soliste. Parfois, on a 15 solistes. Et ce sont des chanteurs qui viennent du monde entier. Hein, on travaille avec des Russes, des Coréens, des Français, des Italiens, des Américains, des Anglais, des Espagnols. Vraiment des chanteurs qui viennent du monde entier et qui viennent interpréter un rôle bien précis à Toulouse. Donc, ils viennent le temps des représentations, enfin, le temps des répétitions d'abord, et puis le temps des représentations. Mais le chœur, l'orchestre et le corps de ballet sont permanents. Ils font partie de la maison du théâtre, hein, ils font partie de la maison opéra, et ils interviennent dans tous les spectacles où on a besoin d'eux. Et les solistes, eux, sont choisis par le directeur artistique pour interpréter spécialement tel ou tel rôle. Et c'est une des raisons aussi parce que ces chanteurs, ils passent sur les plus grandes scènes du monde et ils passent également à Toulouse. Et ça souligne aussi voilà, la qualité des spectacles qui sont donnés au Théâtre du Capitole. Puisqu'on est dans un théâtre municipal hein, qui appartient à la ville de Toulouse, mais les spectacles qui sont donnés ici sont de même qualité que ceux des plus grandes maisons d'opéra, voilà, que ceux de Garnier à Paris, ou même du Metropolitan à New York, de Covent Garden de Londres, de la Scala de Milan, etc. Donc on est un théâtre qui n'est pas très grand, et pourtant les spectacles sont de même qualité.
L'opéra, vous l'avez dit, bon, il y a des gens comme Verdi, comme Wagner, comme tout ça, donc il y a plein de langues. Vous ne parlez pas forcément toutes ces langues. Une langue, c'est une musicalité quand même. Il faut arriver à l'accentuer correctement. Donc moi, je voulais un peu voir quelles étaient vos techniques par rapport à ça. Comment on fait ? Parce que bon, ça a dû vous arriver de tomber sur des langues dont vous ne parliez pas un traître mot.
Ouais. Alors là, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'on est habitué à chanter parce que les principales langues, c'est l'italien, le français, l'allemand, le russe et le tchèque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un grand compositeur tchèque, qui est Jan Hatschek, ainsi que Dvorak, qui ont écrit pour l'opéra. Donc nous, moi je parle italien, français, j'ai pris des cours d'allemand aussi, pour avoir quand même une petite notion au niveau de la phonétique, de la prononciation. Et ensuite, quand il s'agit du russe, c'est uniquement phonétique. C'est un travail phonétique, parce que... je ne sais pas du tout parler russe, quoi. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement adapté à la voix, ça vient avec le travail, la pratique, c'est de la répétition. Il faut dire que c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. C'est beaucoup de travail.
Alors, vous allez voir, il y a une petite porte là-bas qui est cachée. On va la prendre, vous allez sortir, on va retourner dans la coursive. Alors nous, on est un théâtre aussi un peu particulier, le Théâtre du Capitole, parce que nous sommes un théâtre producteur. On produit nos spectacles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre avis des enfants ? Est-ce que, par exemple, c'est nous qui inventons les histoires ?
Oui.
Alors non, on va prendre une histoire qui existe déjà. Est-ce que c'est nous qui inventons la musique, à votre avis ?
Non.
Non plus. On va prendre une musique et une histoire qui existe déjà. D'accord ? Mais qu'est-ce que l'on va faire alors dans le spectacle ? Si on n'écrit pas la musique, si on n'écrit pas l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire ?
Ben, inventer les chants ou la danse.
Non, ça c'est déjà écrit. Nous, on va interpréter tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Vous vous souvenez de tout ce dont on a besoin pour faire un spectacle ? Qu'est-ce qu'on a dit ?
Le fournir.
On va faire quoi ?
Le fournir.
Plus que le fournir, on va le fabriquer. D'accord ? On va fabriquer le spectacle entièrement. On va fabriquer les décors. On va fabriquer les costumes. On va fabriquer les perruques. D'accord ? Eh bien, on a des ateliers de fabrication. Alors, par exemple, dans notre atelier de fabrication de décors, on a des menuisiers. Qu'est-ce qu'ils travaillent, les menuisiers ? Ils vont travailler le bois. Très bien. On a également des métalliers. Qu'est-ce qu'ils travaillent, les métalliers ?
Le métal.
Le métal. Et puis, on a aussi des sculpteurs. On a des peintres. Hein. On a tout un tas de métiers, hein, de personnes qui vont... fabriquer les décors, donc c'est un savoir-faire très particulier hein, de fabriquer les décors. Et puis pour fabriquer les costumes, on a une équipe de
costumiers.
Voilà, on peut les appeler aussi des couturiers et des couturières. Et puis pour fabriquer les perruques, on a un atelier, voilà, avec des perruquiers et des perruquières qui vont fabriquer les perruques, qui vont aussi s'occuper du maquillage. D'accord ? Donc être un théâtre producteur, ça veut dire qu'on va fabriquer entièrement le spectacle. Alors, le spectacle que l'on est en train de préparer, là, en ce moment, qui s'appelle Les Pigeons d'Argile, c'est une œuvre un peu particulière. Parce que je vous ai dit, nous, d'habitude, on prend une œuvre, une musique et une histoire qui existe déjà, et puis on va fabriquer tout ce qu'il y a autour. Là, c'est un peu particulier, parce qu'on a demandé à un compositeur, que vous avez croisé tout à l'heure dans le couloir, on lui a demandé d'écrire un opéra spécialement pour nous. On lui a passé une commande. On lui a dit, voilà, on aimerait que vous composiez un opéra. Alors, il s'est rapproché d'un monsieur qui s'appelle Tanguy Viel, qui a écrit l'histoire de cet opéra. Et nous, on va donner cet opéra pour la première fois. Donc, cet opéra qui va être donné là d'ici quelques jours, personne ne l'a encore entendu. Sauf bien évidemment les artistes qui travaillent en répétition, d'accord ? Mais aucun spectateur, personne dans le monde n'a encore entendu cet opéra. C'est ce qu'on appelle une création mondiale, parce qu'il n'a jamais été donné ailleurs. Donc ça, c'est un peu particulier, d'accord ? Oui ?
La photo, elle fait peur.
La photo, elle fait peur, parce que c'est vrai que... Alors, je vais décrire un peu la photo de l'affiche de cet opéra. On voit une jeune fille qui semble un peu crier, puisqu'elle est menottée par des policiers, et on dirait qu'elle essaye de... soit de s'échapper, soit de revendiquer des choses. Hein. Alors, c'est parce que cet opéra, l'histoire de cet opéra, de ce spectacle, a été écrite autour d'une histoire qui a réellement existé, qui s'est réellement passée. Je vous raconte rapidement l'histoire des enfants. C'était une jeune fille qui était la fille d'un très riche banquier, d'un monsieur qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et cette jeune fille, elle s'est fait kidnapper, elle s'est fait enlever par des jeunes gens qui ne lui voulaient pas de mal, mais qui avaient l'idée de répartir un peu mieux les richesses. Ils voulaient qu'il y ait un petit peu moins de personnes très très riches et surtout moins de personnes très pauvres. Donc pour un peu marquer les esprits, pour que les gens comprennent, ils ont enlevé cette jeune fille, hein, pour que son père, riche banquier, réagisse un petit peu. Et puis cette jeune fille, finalement, vous savez, quand on se fait kidnapper, c'est quelque chose de très violent, hein. Mais cette jeune fille, elle va finir par être d'accord avec les jeunes gens qui l'ont enlevée. Elle va comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et elle va finir par les défendre, par prendre parti pour eux. Hein. Donc cet opéra, il nous raconte un petit peu cette histoire un peu particulière. Hein. Et comme dans tous les opéras, il y aura bien évidemment une histoire d'amour. Parce qu'il y a l'opéra. Un opéra sans histoire d'amour, c'est pas vraiment un opéra.
Est-ce qu'on crée des opéras modernes aujourd'hui ?
Alors, on crée des opéras encore actuellement. Là, au Théâtre du Capitole, il y a 2 mois, on a donné une création mondiale d'un compositeur français qui est né à Toulouse, qui s'appelle Philippe Hurel, et ça s'appelle « Les pigeons d'argile ». Donc, il y a des créations contemporaines. Mais il faut dire que l'écriture... au niveau de l'écriture de l'opéra, est différente. Elle est plus actuelle. Quand je dis plus actuelle, c'est-à-dire que quand on prend Verdi, Bizet, il y a beaucoup de mélodies. Là, il y a une mélodie. Alors que maintenant, c'est plus sur des rythmes, sur des couleurs qui sont différentes.
Surtout à par les travaux des artistes.
Vous chantez l'opéra, mais est-ce qu'il y a d'autres types de musique que vous aimez ?
Ben, j'aime beaucoup, j'aime toutes sortes de musique quand elle est bien faite et qu'elle est belle. La musique française, la chanson française, mais aussi la musique folklorique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une très grande richesse dans les folklores. Que ce soit la musique des chants catalans ou des chants espagnols, la musique aussi des autres pays, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup tout ce qui est ibérique, parce que bon, ça vient de mes origines sûrement, et la musique folklorique.
Est-ce que, comme vous êtes marseillaise, vous connaissez d'autres chansons un peu traditionnelles ?
Alors, je connais une chanson traditionnelle qui est l'hymne des Provençaux, qui est Coupo Santo. Est-ce que vous la connaissez, Coupo Santo ? Provenza vesi la coupo che nous vendi catalan aderem begen en troupo. Vous la connaissez pas, cette chanson. Vous, non. Ce que vous connaissez, c'est plutôt l'hymne occitan, qui est C'est canto. Canto pas, peyu, canto per ma mio, que ne saen de you. C'est canto, que canto, canto pas, peyu, canto per ma mio, que ne saen de you.
Son,
me
mère cesse d'avoir répondu à toutes nos questions.
Bonjour, oui.
Oui, c'est Radio Occitania.
Alors, moi, je m'appelle Chloé Lost et je travaille avec Valérie Mazarguil, qui est la responsable du service éducatif et culturel du Théâtre du Capitole. Donc, on est deux dans l'équipe à travailler. C'est le service de la médiation culturelle. Donc, on travaille auprès des scolaires, des enfants. Ça va de l'école primaire jusqu'aux étudiants, hein, pour le niveau scolaire. Et puis, on travaille aussi avec le tout public. Donc on organise des ateliers de découverte de la voix, découverte de la danse, des rencontres, des lectures, toutes sortes d'événements différents pour voilà, ouvrir un peu plus les portes de l'opéra, pour inviter un maximum de monde à venir découvrir cet art et voilà, qu'il n'ait pas peur de venir à l'opéra, tout simplement, voilà, pour susciter une curiosité et qu'ils aient envie de venir. Voilà, tout simplement.
Merci. Merci à vous, les
merci
enfants.
Beaucoup. C'est très intéressant. Ah oui. Vous êtes intéressantes.
Oh. Bon, j'espère vous revoir à l'opéra. Même si c'est que dans 15 ans, c'est pas grave.
Adichas, car je vous dis tout, c'est une place sur Radio Occitania 98.13.
L'émission La Bout del Junio fuguet bastido pel scalandrus des cicletres et la calandrette des castanettes. Ajudado per associaciu Festa Doc e Gudul e Galipet.
Es buta de jus l'essencio libro. La pude telecharger sul site de l'escola.